Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Dans un rapport publié en mai 2014, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, montre que l'alcool a tué 3 300 000 personnes dans le monde en 2012, soit un décès toutes les 10 secondes. C'est plus que le sida, la tuberculose. Les hommes sont plus touchés que les femmes. La Russie et les pays d'Europe de l'Est arrivent en tête des pays où l'on boit le plus. La Chine et l'Inde sont ceux où la consommation a le plus augmenté ces dernières années. Alors pour sortir de cette dépendance à l'alcool, il existe très peu de traitements. Le professeur Olivier Amezen a découvert en 2008 que le baclofène pouvait supprimer l'envie impérieuse de boire et rendre indifférent à l'alcool. Ce médicament relaxant est habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Depuis, plusieurs études scientifiques ont été lancées pour montrer l'efficacité de ce médicament. Les résultats des études françaises, Bacloville et Alpadir, devraient être prochainement communiqués, mais d'ores et déjà, une étude allemande randomisée contre placebo, on verra ce que c'est, confirme l'efficacité de ce baclofène. Alors, quels sont les premiers résultats de ces études scientifiques? Quels sont les risques, les effets secondaires du baclofène? Comment prendre en charge les patients atteints d'alcoolisme? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Philippe Jory, médecin généraliste, addictologue, professeur de médecine générale à l'université Paris-Descartes. Et si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Tabara Sili Diallo, qui est psychiatre addictologue à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, on parlera d'allergobox.com, un moteur de recherche sur les allergies alimentaires. Professeur Philippe Jory, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de cette maladie. À partir de quand peut-on parler d'alcoolisme, ou plutôt d'ailleurs de dépendance à l'alcool?
Il y a des définitions par rapport à ça. Je crois que on peut parler d'alcoolisme ou de problème d'alcoolisme quand il y a une gêne pour l'entourage, une gêne pour le patient, qui a une demande de diminution, qui a une demande de sevrage. Mais ça, c'est déjà dans un deuxième temps, puisqu'il faut déjà prendre conscience qu'on a un problème.
Ça, c'est
donc
difficile.
Il y a des marqueurs, si vous voulez. L'OMS a donné des grammes d'alcool qu'il ne faut pas dépasser chez un homme, des grammes d'alcool qu'il ne faut pas dépasser chez une femme par jour. Et donc, on peut mesurer un petit peu quels sont ces chiffres. On dit que c'est 30-40 grammes par jour chez un homme, et ça fait 10 grammes, c'est un ballon de rouge, c'est une bière, un demi de bière. Quand vous allez au bistrot, en France en tout cas, quand vous allez au bistrot, vous demandez un whisky, on va vous servir 10 grammes d'alcool. Donc en fait, c'est pas une question d'alcool fort ou d'alcool faible. Ça n'existe pas pour les alcoologues. Quand vous allez au bistrot, vous demandez un Ricard, vous aurez 10 grammes d'alcool. Si vous demandez un ballon de rouge, 10 grammes d'alcool. Donc faut pas dépasser 40 grammes chez l'homme par jour et 20 grammes chez la femme.
À partir de là, on peut dire qu'il commence à y avoir un problème. L'alcoolisme est une maladie. C'est important de bien le préciser.
Alors c'est important. Il faut que les représentations dans la population changent. L'alcoolisme, c'est une maladie, c'est une grande souffrance pour ceux qui en sont atteints. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est une double peine quand ces patients qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, parce qu'ils n'arrivent pas à diminuer, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre sans alcool, ces patients-là, en plus, on les traite de manque de volonté. De manque de volonté, ils sont incapables de gérer, se côtoient un peu. Et donc c'est une double peine. Et c'est des patients qui, du coup, n'osent plus en parler, se replient sur eux-mêmes et c'est embêtant.
Il faut changer de regard sur cette maladie.
Il faut absolument, donc... et ça c'est le boulot des médias, et je pense que c'est important, les émissions où on dit c'est une souffrance, c'est une maladie, on peut s'en occuper, et bon, il faut en parler.
Je l'ai dit en début d'émission, très peu de traitements pour prendre en charge ces malades. L'arrivée du baclofène est quand même une bonne nouvelle pour vous?
Alors, c'est vrai qu'il manquait quelque chose d'efficace, qui pouvait aider les patients. Il y avait des médicaments, mais qui sont sur la distance, ne tiennent pas vraiment longtemps. On avait quelques médicaments. Bon, on avait les psychothérapies, on avait les prises en charge, les cures. Mais on était quand même... ça fait moi presque 40 ans que je m'occupe des patients qui ont des problèmes d'alcool. Et c'était vraiment une déception, parce que on avait du mal, alors que pour l'héroïne on avait des traitements dits de substitution. Il manquait quelque chose pour l'alcool.
Et là, le baclofène, effectivement, vous paraît intéressant. Vous faites partie des gens qui menaient des études, une étude dont on va parler, Bacloville. Si vous voulez bien, je vous propose maintenant d'écouter Christophe, 51 ans. Il est graphiste à Paris. Pendant presque 4 ans, il a bu entre 2 litres et demi et 3 litres et demi de vin par jour. Il a tout perdu, son travail, sa famille, son logement. Cure de sevrage, alcoolique anonyme. Christophe a un peu tout essayé pour se soigner. C'est finalement le baclofène qui l'a délivré de son addiction, comme il le raconte à Tout Neuf Mundi.
J'ai commencé par aller voir des alcoologues de ville. Ensuite, je suis passé par la structure hospitalière dans laquelle j'ai commencé par des cures de sevrage qui ont été suivies par la suite par des post-cures. Et ensuite, j'ai fréquenté donc les alcooliques anonymes.
Et comment avez-vous eu connaissance de l'existence du baclofène comme traitement contre l'alcoolisme ?
Par l'intermédiaire du livre d'Olivier Amessène. Ensuite, j'ai été un peu démuni parce que je ne savais pas comment trouver quelqu'un qui allait me prescrire ces médicaments. Là, j'ai quitté les structures hospitalières, j'ai essayé d'aller voir des médecins de ville, en fait, et on n'a pas voulu me prescrire ce médicament pour des raisons assez objectives, hein, c'est qu'il n'était pas autorisé à l'époque. Je suis finalement tombé sur le site d'une association qui s'appelle l'association Aube, qui réunit des patients alcooliques et des médecins addictologues engagés dans le baclofène, et qui m'ont progressivement permis de rentrer en contact avec des médecins donc qui avaient l'habitude de ce protocole. Et voilà, j'ai commencé à engager un traitement.
Le traitement en lui-même, ça se passe comment ?
C'est un traitement qui commence très doucement. Le baclofène est dosé à 10 mg, donc on commence par 10 ou 20. Et ensuite, tous les 5-6 jours, on augmente la dose de 10 ou de 20 mg, voilà, progressivement.
Quels ont été les effets sur vous ?
Je dirais que jusqu'à 10, 12 mg, il n'y avait absolument aucun effet. C'est-à-dire que je prenais le traitement et mon alcoolisme était absolument similaire. À partir de 12, 13, 14 mg par jour, j'ai commencé à avoir des insomnies sérieuses et un état de fatigue un peu constant.
L'envie de boire avait disparu ?
Alors à partir de 18 mg, oui, elle avait totalement disparu. Oui.
Au bout de combien de temps de traitement ?
Pour moi, ça a été quand même un chemin d'à peu près un an.
Votre expérience de l'alcoolisme et son traitement grâce au baclofène, vous le racontez dans un livre, Il y a toujours un après. Êtes-vous aujourd'hui complètement guéri ?
Oui, écoutez, je suis complètement guéri dans la mesure où l'alcool d'abord n'est plus un problème et en plus ne fait plus partie de mes préoccupations au quotidien. Maintenant, la question de la guérison est une question complexe. Moi, je dirais aujourd'hui plutôt que je suis traité puisque je suis toujours sous ce médicament, le baclofène. Donc, je suis efficacement traité.
Aujourd'hui, vous êtes sobre, vous avez arrêté de boire ?
Non, alors je n'ai pas arrêté de boire, parce que ça, c'était une des particularités du baclofène, c'est-à-dire que le baclofène permet deux choses. Il permet soit de s'arrêter complètement de boire, soit de boire modérément. Dans mon cas, c'est une consommation irrégulière, c'est-à-dire je ne bois plus tous les jours. Je peux boire une bière de temps en temps, lors d'un dîner, je peux boire 2-3 verres de vin, voilà.
Vous remettez carrément en cause l'abstinence ?
Je ne la remets pas en cause en tant que telle, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui prennent du baclofène et qui décident d'arrêter de boire complètement. Et je pense par ailleurs qu'effectivement le prisme de l'abstinence absolue qui a été celui défendu par le monde de l'alcoolologie depuis plus de 100 ans est un prisme qui est faux en fait. Moi ça ne me dérange pas que ce prisme ait été faux, puisqu'on n'avait rien d'autre. Ce qui me dérange, c'est que maintenant qu'il y a autre chose, on voit se lever des gens qui vont à l'encontre de quelque chose qui est un soulagement et une guérison pour des tas de patients.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge de la dépendance à l'alcool avec le professeur Philippe Jory. Professeur, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce témoignage de Christophe qui dit plein de choses intéressantes. D'abord, on va rebondir sur la fin de ce qu'il dit, ce dogme de l'abstinence. Pendant longtemps, on a dit que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'arrêter absolument toute consommation d'alcool. On est en train de se rendre compte que ce n'est pas forcément vrai.
On disait pareil pour l'héroïne. Mmh. C'était vraiment le dogme de l'abstinence jusqu'au moment où on a trouvé qu'il y avait des traitements qui permettaient de s'en sortir très bien, de pouvoir d'avoir un problème, de plus avoir de problème social, familial. Et donc c'est pareil. L'abstinence a été un dogme. Mais vous savez ce qui m'a bluffé dans le baclofène ? Je crois qu'il faut quand même, quand j'ai commencé à le prescrire en 2008, c'est une patiente qui m'a demandé. Je demande toujours à mes patients quel est votre objectif ? Est-ce que vous voulez boire comme tout le monde ou est-ce que vous voulez ne plus boire du tout ? Et quand même des patients qui me disaient moi je veux boire comme tout le monde, qui au bout de 3-4 mois de traitement me disait, vous savez, finalement, je bois plus. Et donc, c'était pas leur objectif, et ils devenaient abstinents, donc, comme je l'ai écrit...
De fait, parce qu'ils en avaient plus envie, c'est ça ?
Oui, l'abstinence n'était plus un objectif, mais peut-être une conséquence du traitement. Et ça change beaucoup de choses. Mais c'est pas un objectif majeur. Je veux dire que si quelqu'un peut boire une fois lors de son anniversaire ou lors d'une fête, c'est assez extraordinaire. Finalement, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils sont obligés de prendre un médicament. Et c'est comme pour le diabète. On n'est pas guéri du diabète. On est sous insuline, on prend de la metformine, on prend des médicaments. Mais du moins, on est équilibré, on va bien. Et c'est pareil.
Ce baclofène, ça veut dire qu'on peut le prendre comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il n'y a pas de
problème.
Pas de problème, pas d'effets secondaires.
Il y a plein d'effets secondaires. Ça dépend des doses, ça dépend des patients, ça dépend de leur motivation. Mais vous savez, comparé aux effets secondaires de l'alcool, franchement, c'est pas grand-chose. Je vous ai donné des chiffres. En France, c'est un patient toutes les 12 minutes qui meurt de façon directe ou indirecte à cause de l'alcool.
Donc, on reviendra sur ce baclofène et sur comment le prescrire. On a Ismaël qui nous appelle de Libreville au Gabon. Ismaël, bonjour.
Bonjour, Claire.
Bonjour, Ismaël. On vous écoute. Vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui, bonjour. Bon, depuis 6 mois aujourd'hui, vraiment, je peux dire, je suis devenu déjà un expert de l'alcool. Bon, ce qui se passe, c'est que, un jour, je ne peux pas m'en passer sans consommer au moins 5 à 6 bouteilles d'alcool. Même quand je suis au boulot, je suis souvent obligé de me déplacer, mais cacher pour aller consommer. Bon. Depuis un certain temps, ça me dérange beaucoup. Et j'aimerais savoir comment faire pour faire ça.
Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour stopper, professeur Philippe Jury? J'imagine que c'est une question qui revient beaucoup en consultation.
La première étape, il l'a franchie, c'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il avait un problème et qu'il peut pas gérer. Et donc ça, c'est la première étape. Donc après, la deuxième, c'est de faire une demande de soins. Et la troisième, c'est de trouver quelqu'un, un alcoologue, un médecin, qui puisse l'aider. Alors, c'est vrai que il a bien repéré qu'il peut pas gérer. On n'est pas égaux vis-à-vis de l'alcool. Il y en a qui arrivent à gérer très bien, qui sont pas dans des consommations excessives, qui, on va dire, c'est consommateurs normaux. Et puis, il y en a d'autres, comme Ismaël, qui peuvent pas fonctionner. Ils sont devenus dépendants. Et donc, comment s'en sortir? Évidemment, je pourrais lui dire de prendre du baclofène, de voir un médecin, mais au Gabon, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il pourrait voir... j'ai une interne qui travaille maintenant au Gabon. Il faudrait que je vois ça avec lui éventuellement pour lui conseiller quelqu'un au Gabon éventuellement.
Très bien, on fera ça hors antenne, effectivement. On va essayer, Ismaël, de vous donner les coordonnées. En tout cas, ce que vous dites qui est intéressant par rapport au témoignage là d'Ismaël, la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et cette étape-là, elle est difficile à franchir. Le malade nie qu'il y a un problème pendant très longtemps, c'est ça?
Il se nie à lui-même, ça s'appelle le déni. Ils sont dans le déni parce que ça les dérange, parce que faut dire que la fonction alcool, elle est souvent ne pas affronter la réalité. Donc ça les aide à ne pas affronter la réalité, ne pas prendre conscience, mais quelque part ils le savent. Et vous savez, le baclofène, finalement, c'est une victoire des patients. C'est des patients qui sont venus à nous. C'est la deuxième fois que je vois ça. J'ai vu ça avec le sida pour la trithérapie, où les patients se sont mis en association. Il y a eu aide, il y a eu ACT UP. Ils ont exigé la trithérapie. Et donc ils l'ont eu. Et là c'est pareil, ce sont les patients qui ont exigé, qui ont obtenu une victoire. C'est les réseaux, c'est Aube, c'est le réseau Baclofène, c'est le RESAB maintenant. Je veux dire qu'il y a plein de...
Votre histoire, c'est vraiment ça. C'est suite au livre d'Amezen que les patients sont venus vous voir en disant, et c'est comme ça que vous êtes mis entre guillemets, essayer.
Il y a une patiente qui est venue me voir qui m'a dit, est-ce que vous accepteriez de me prescrire 30 comprimés de baclofène par jour? Alors j'ai dit non. J'ai dit maintenant je veux bien voir. Qu'est-ce que c'est? Je vais me renseigner. Donc elle m'a apporté le livre, je l'ai lu. Et je lui ai dit ok, j'ai prescrit 80 comprimés par jour de Temgesic, ce qui fait maintenant 2 comprimés de Subutex, de buprenorphine, pour les héroïnomanes. Donc je me dis pourquoi pas 30 comprimés si ça marche.
Et vous avez constaté sur cette patiente que ça marchait.
Alors j'ai eu de la chance parce que cette patiente, ça a été assez extraordinaire. Donc j'aurais eu un échec chez la première, je me serais dit c'est quand même un peu difficile. Mais chez cette patiente, ça a été extraordinaire et elle va toujours très bien, c'était 2008.
Est-ce qu'elle est encore par exemple sous traitement de baclofène? Oui.
Oui. Je pense qu'il y a à peu près 20% de patients qui arrivent à arrêter et qui vont bien après. Et il y a donc 80% qui continuent. C'est le même problème avec la méthadone et le même problème avec la buprenorphine.
On a Salifou qui nous appelle de Conakry en Guinée. Salifou, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Salifou.
Jeune de 25 ans, je vis à Conakry et j'ai commencé à boire l'alcool depuis 12 ans. De 12 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans. Je peux dire vraiment que j'ai sombré dans l'alcool et je continue toujours à prendre des liquides. Je me demande aujourd'hui comment faire parce que quand je me décide d'arrêter, je prends des désirs, il y a le stress, quand je bois pas et si je prends pas pour faire une activité, je ne peux pas me défouler, ce qui ne m'arrange pas beaucoup. Mmh. Et là, je suis fait.
Et vos proches vous demandent d'arrêter?
Oui, mes proches me demandent d'arrêter. Mmh. Surtout les parents, les amis, mais je ne sais pas quoi faire, le désir est là.
Vous en avez envie, mais c'est difficile. Professeur Philippe Juris, c'est embêtant en plus de commencer très jeune.
Oui, c'est vrai que c'est plus on commence jeune et plus c'est difficile. Bon, d'abord, on va pas le dire, mais enfin on peut le dire, mais c'est quand même pas bon pour le cerveau de commencer jeune quand le cerveau n'est pas encore complètement mature. Donc c'est pareil pour le cannabis, c'est pareil pour toutes les drogues, mais surtout l'alcool.
Il y a encore plus de risques de dépendance d'ailleurs quand on commence jeune.
Sûrement.
Parce qu'il se passe quelque chose justement dans le cerveau.
Oui, et donc on entend bien une souffrance importante chez ce patient avec l'entourage qui comprend pas, qui lui demande d'arrêter, qui lui il a le désir mais il a pas la possibilité de le faire. C'est plus fort que lui. Et donc ça, évidemment, on pourrait l'aider. Il faudrait que, d'abord... Enfin bon, c'est compliqué parce qu'il habite...
Il habite Conakry, oui.
En Guinée, donc... Mais il y a des possibilités, c'est vrai.
Et qu'est-ce qui se passe dans le corps, justement, dans cette demande d'alcool? C'est-à-dire ce besoin, dès le matin, de reboire.
C'est le craving, ça, c'est le manque.
C'est quoi ce craving, justement?
C'est une pulsion qui est irrépressible. Hein. C'est comme les boulimiques qui peuvent pas s'empêcher de manger, alors qu'ils savent qu'il faut pas. C'est à moins qu'on les attache, ils peuvent pas s'empêcher. C'est plus fort que nous, c'est plus fort qu'eux. Et c'est quelque chose qui est... c'est pas une question de volonté, on peut pas. On ne peut pas.
On dit beaucoup que le sevrage, justement, doit être encadré médicalement. Pourquoi est-ce important?
Alors, ça dépend. Vous parlez du sevrage alcool.
Oui.
Le sevrage alcool, il y a des risques, évidemment, de ce qu'on appelle le DT, le délirium tremens. Si on arrête d'un coup, si c'est pas encadré, s'il n'y a pas un traitement avec. Donc, et puis, il faut un accompagnement. Il faut aider les patients. Il faut les accompagner. Il faut faire, faut qu'ils puissent parler. Il faut qu'ils puissent donner un peu tout, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses à faire. Je veux dire que c'est pas simplement prendre un médicament. L'accompagnement, la prise en charge psychothérapeutique et c'est un tout. Après, il y a prise en charge sociale. Comme je dis, c'est toujours une prise en charge globale. Biomédico-psychosocial, c'est-à-dire biologique, on surveille les atteintes au niveau hépatique, au niveau rénal, au niveau pancréatique, à tous les niveaux, l'alcool attaque tous les niveaux.
C'est ça, justement, quels sont les risques pour la santé?
Ils sont énormes. Ils sont énormes. Bon, il y a des patients qui sont plus résistants que d'autres, mais
parce que, non, on parle du foie, mais il y a pas 3 300 000 personnes qui décèdent dans le monde, toutes les 10 secondes, quelqu'un qui décède dans le monde, toutes les 12 minutes en France, il meurt de quoi, en fait?
Alors, il meurt d'accident, il meurt de cirrhose du foie, il meurt de pancréatite, il meurt de, au niveau cérébral, ça a une atteinte cérébrale, c'est une atteinte cardiaque, ça donne des myocardiopathies. Donc c'est vraiment, ça atteint tous les organes.
D'où l'importance d'arrêter. En tout cas, merci Salifou d'être intervenu et de votre témoignage. Parce qu'on a compris qu'il fallait une prise en charge globale. Je voudrais qu'on revienne sur le baclofène. En fait, c'est un traitement qui est difficile à prescrire. Pourquoi?
Alors, c'est difficile à prescrire parce que d'abord, chaque patient est différent. Donc pour moi, c'est un traitement à la carte. Pour moi, c'est aussi difficile que de prescrire l'insuline pour un patient qui a du diabète. Il faut s'adapter.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dose fixe?
Non, et la dose, elle ne dépend pas ni de la consommation, ni de l'âge, ni du sexe, ni de rien du tout. On ne sait pas très bien. Et donc, il faut commencer par des toutes petites doses, parce que normalement, il y a des effets secondaires importants. Donc, on commence par des petites doses, on monte, et puis on adapte. Il y a des patients.
Jusqu'à ce que vous montez entre guillemets, jusqu'à ce que ce soit efficace.
Oui. Alors, les premiers signes d'efficacité, c'est intéressant. C'est les patients qui nous disent, au premier abord, ils disent, moi, je bois comme d'habitude. Je bois pareil. Autant d'alcool. Mais si vous leur posez des questions plus précises, du genre, mais est-ce que vous buvez aussi vite? Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai bu en 4 heures au lieu de 3 heures. Ou j'ai pas bu aussi vite. Est-ce que vous finissez les verres? Ah oui, j'ai pas fini tout de suite. Vous voyez, c'est l'entourage souvent qui dit, tiens, t'as pas fini ton verre. Donc ça veut dire que ça va marcher, qu'on n'est pas très loin de la dose efficace. Mais la dose efficace moyenne, c'est 120 mg, ça fait 12 comprimés. Donc on va avoir, probablement, l'année prochaine, des comprimés plus dosés, ce qui permettra d'être plus...
Ça sera
plus
simple. Ne pas s'enfiler, d'y cacher,
Mais c'est vrai que c'est compliqué, chaque cas est différent, donc il faut s'adapter, il faut vraiment un traitement à la carte.
Professeur Philippe Jory, vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. On continuera à parler de ce baclofène, de l'étude que vous êtes en train de mener. Bacloville, même si on n'a pas encore les premiers résultats, vous pourrez nous expliquer en fait comment on mène une étude scientifique comme celle-là. Un téléphone si vous voulez participer, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des personnes dépendantes à l'alcool, avec entre autres l'arrivée d'un traitement, le baclofène, sur lequel plusieurs études sont menées en ce moment. On en parle avec le professeur Philippe Jury, qui est médecin généraliste, addictologue, professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes. Et si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone le docteur Tabara Sila Diallo, qui est psychiatre addictologue à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal. Docteur Tabara Sila Diallo, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de ces problèmes d'alcoolisme au Sénégal, ou c'est compliqué?
Oui, les chiffres, on a plutôt des chiffres hospitaliers, mais pas au niveau national. Donc, on avait fait une étude récente en 2012 au niveau des services, où on avait en deux ans 82 patients qui présentaient une consommation problématique à l'alcool, avec 70 patients qui avaient une alcool-dépendance.
Est-ce que la population sénégalaise a conscience de ce problème d'alcoolisme?
Oui, de plus en plus, avec l'intervention des médias. De plus en plus, les médias interpellent les autorités par rapport à cette consommation d'alcool qui est très accessible, qui se vend dans des supérettes, sans tenir compte de l'âge des acheteurs, des clients. Et voilà, je pense que la population sénégalaise est alarmée et essayer d'avertir en tout cas les autorités sénégalaises par rapport à ce fléau.
Justement, dans les témoignages qu'on a eu en début d'émission et puis qu'on a eu sur notre page Facebook, je suis assez impressionnée du nombre de jeunes qui se sont mis à boire très très jeunes, justement. Je voulais vous faire réagir par rapport à ça, Philippe Jury. Normalement, c'est, en tout cas en France, interdit de vendre de l'alcool à des mineurs, c'est ça?
Oui, en théorie.
En théorie, mais de fait, on sait...
C'est difficile de demander une pièce d'identité. Il y en a qui le font, mais c'est difficile. Et puis, vous savez, ils font acheter par des plus grands, et puis après, ils arrivent
à contourner. Docteur Tabara Sila Diallo, si je ne me trompe, vous êtes une des rares psychiatres addictologues sur le continent africain à utiliser le baclofène. Comment l'utilisez-vous?
Voilà, je pense que je l'utilise pour le moment avec beaucoup de tâtonnements, à titre expérimental, parce que, comme en France, on n'a pas encore l'AMM par rapport cette indication.
L'autorisation de mise sur le marché. Hein.
Parce qu'eux, ils ont récemment eu l'AMM temporaire.
RTU.
Mais nous, on l'a pas, donc c'est de manière expérimentale que je mets en place la prise en charge par le baclofène, et aidé par des confrères addictologues français aussi qui me font des feedbacks et que j'interroge souvent par rapport aux résultats qu'ils obtiennent de l'autre côté du continent.
Et alors justement, est-ce que vous obtenez avec vos patients des résultats intéressants avec ce baclofène?
Je dirais que c'est des résultats qui sont mitigés. Par exemple, si on prend dans le court terme, maximum une année, 6 mois, je trouve que c'est des résultats extraordinaires. Hein. C'est des résultats qui sont très, très, très intéressants, sont motivants, et pour le thérapeute et pour le patient. Beaucoup moins de réalcoolisation pendant cette période, et en tout cas beaucoup de motivation aussi pour le patient. Maintenant, au-delà de cette période d'un an, parce que j'ai commencé depuis 2012, au-delà de cette période, ça dépend de plusieurs facteurs, hein, qui ne sont pas des facteurs biologiques, à mon avis. Je parle sous le contrôle du professeur Jolie, et je salue au passage. Mais je parle de mon expérience propre par rapport à ma cohorte de patients que j'ai au Sénégal.
Donc ça veut dire que vous en avez combien, par exemple, sous baclofène en ce moment?
Pardon?
Vous avez combien de patients sous baclofène en ce moment?
Donc 2012, avec l'étude, on était à 82, là on est à 100, avec quand même des pertes de vue quand même qui peut... aller jusqu'à 45 patients là.
Et docteur Tabara Sila Diallo, quand vous nous dites ça marche très bien la première année, mais un peu moins après, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que les gens reconsomment, arrêtent le traitement, c'est quoi qui fait que vous trouvez que ça marche moins bien?
Moi, je pense que c'est par rapport à plusieurs facteurs dont les principaux, c'est la personnalité même de l'individu. Ce que j'ai remarqué, les individus qui sont un peu passifs dépendantes et qui ont subi aussi l'avènement et la médiatisation du baclofène et qui pensent que le baclofène peut tout faire et qu'au moment de... quand il faut maintenir l'aspect psychologique est là, c'est à ce moment qu'ils baissent un peu les bras. Il y a tout type de personnalités aussi qui sont dans, un peu dans le testing. C'est de dire, je prends le baclofène et je m'expose, je bois beaucoup et je vois si réellement le baclofène peut m'arrêter pour me faire des injections d'arrêt. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Mais oui, espérer que d'un seul coup, ça va leur permettre de s'arrêter de trop consommer. Je voudrais faire réagir à ça, professeur Philippe Jory. J'imagine que vous avez envie de dialoguer avec le docteur Sila Diallo à Dakar. Vous constatez la même chose au bout d'un an, un peu un essoufflement?
C'est-à-dire que si le patient n'a pas compris que c'est une maladie chronique pour la plupart, pour 80% des patients, je pense que, comme pour le diabète, les gens, ils baissent les bras, ils en ont marre de prendre des médicaments tout le temps. On a le même problème avec l'hypertension, où les patients, ils diminuent le traitement, ils arrêtent le traitement, ils oublient le traitement.
Ils sont pas observants, comme on dit.
Voilà, le problème de l'observance, il n'est pas simplement avec le baclofène, il est avec toutes les molécules. On a le problème avec toutes les maladies chroniques. Et on a le même problème avec le baclofène. Alors, ils font des expériences, ils essayent. Moi, j'ai des patients aussi qui arrêtent le baclofène pour pouvoir boire. Donc là, il y a un autre problème. Il faut travailler là-dessus. Mais en général, on a fait un schéma. D'ailleurs, je pourrais l'envoyer à ma collègue. On sait que c'est il y a une augmentation, ce qu'on appelle la titration, pour avoir la dose efficace. On va dire c'est 2 mois, entre 2 mois et 4 mois.
C'est-à-dire 2 mois, 4 mois pour trouver la bonne dose.
Oui,
c'est
après,
ça.
Après, alors faut le dire au patient, parce que s'il prend 3 comprimés et puis il dit moi je sens rien, je bois toujours pareil, il va arrêter. Donc il faut leur expliquer ce qui va se passer. Après, on dit qu'il y a 3 à 6 mois de stabilisation. Et puis après, il y a de 3 à 5 ans où on va essayer de diminuer. Et puis on voit qu'est-ce qui se passe. Mais quand on dit ça, le patient il dit oh là là, mais c'est pas possible, donc on va le dire autrement. Mais il faut le savoir.
C'est-à-dire, il faut leur dire que simplement dans 3 ans, on commence.
On va dire qu'on va déjà commencer pour 1 an, puis on va voir ce qui se passe après.
Oui, voilà. C'est ça.
On va leur dire qu'ils vont prendre le traitement pendant 20 ans, parce qu'autrement c'est inimaginable. C'est pareil quand on disait il faut être abstinent, il ne faut plus jamais boire une goutte de votre vie. C'est psychologiquement, ça n'est pas pensable. Donc on va le faire les choses au fur et à mesure. C'est une question de prise en charge, ça.
Mais donc vous constatez aussi cette difficulté sur le long terme, comme vous le dites,
comme
simplement
pour l'hypertension,
sur
comme
une
pour
maladie,
le diabète.
Sur une maladie chronique.
Oui, toutes les maladies chroniques, les gens, les patients, ils arrêtent le traitement, ils oublient, pour la BP, la bronchite chronique, pour tout ça. Mais on le sait bien, on le voit bien, on travaille là-dessus.
Docteur Tabara Sila Diallo, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose?
Oui, je pense que le professeur Jury a tout à fait raison et que c'est dans toutes les pathologies chroniques qu'on rencontre cette difficulté de la compliance dans le long terme. Et très souvent, je travaille par étapes avec eux. Et c'est important pour moi de créer un lien thérapeutique qui fait que au moment où il y a ces doutes, il y a ces questions, est-ce que c'est un traitement à vie, est-ce que je peux arrêter, est-ce que je peux me tester, et que ça se travaille aussi dans les consultations, dans les entretiens que j'ai avec eux. Et que des perdus de vue, en tout cas chez nous, c'est même pas synonyme d'échec. C'est des gens, par le biais de leurs parents, par le biais des collègues, on sait qu'ils essayent de se gérer seuls, ils ne viennent pas au rendez-vous, mais ça se passe en général bien, même pour ces perdus de vue quand même, qui ne viennent plus consulter, mais qu'on a des renseignements, des informations par le biais des tiers et qui nous donnent de bonnes nouvelles.
C'est ça, donc en des général, perdus de vue qui vont bien.
Il y en a beaucoup.
Ils reviennent.
Oui.
C'est vrai, il y a des perdus de vue. C'est-à-dire que moi, je fais faire des travaux par mes internes et pour des thèses et tout ça, donc ils rappellent les patients. Et les patients, je ne vois plus. Et puis, j'apprends comme ça qu'il y a un médecin, parce qu'il venait de province, ou il venait d'ailleurs, qui les a pris en charge, ils vont bien. Et puis, il y en a d'autres qui vont pas bien. Mais en général, quand même, alors c'est important ce qu'elle a dit, ma collègue, c'est par rapport à la famille. Et l'entourage, il peut être négatif ou positif. Un entourage qui n'est pas conscient du problème, qui va dire, de toute façon, vous savez, le fameux mot là, qui a bu, boira, quand on vous sort ça, de toute façon, bon, il a arrêté, mais il va reprendre. Des familles qui disent ça. C'est quand même dur, hein.
Merci beaucoup, docteur Tabara Sila Diallo. Ouais. Et on va donner, si vous voulez bien, vos coordonnées au professeur Jory, qui va pouvoir vous envoyer les documents qu'il évoquait.
Sur le schéma thérapeutique, c'est intéressant.
Sur le suivi des patients. Merci beaucoup, docteur Tabara Sila Diallo.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des personnes dépendantes à l'alcool avec le professeur Philippe Jory. On a Alliance qui nous appelle de Bukavu en République démocratique du Congo. Alliance, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Parlez bien fort près du téléphone pour qu'on vous entende, Alliance.
Merci beaucoup. Moi, c'est Alliance et je disais que au départ, je ne prenais pas d'alcool car mes parents n'en prenaient pas non plus. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, à l'âge de 20 ans, j'ai goûté le premier verre. Deux choses, je dirais, l'influence des camarades, parce que à cette époque-là, j'ai commencé déjà à l'université. Et aussi, il y avait la curiosité. Alors, bien avant, c'était amer, c'est ce que j'ai senti. Et c'est fait, j'ai mélangé avec des boissons gazeuses telles que Coca-Cola, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'amertume là n'est plus. Et j'ai peiné une bouteille, j'ai progressé. Aujourd'hui, je suis en train de prendre 3 à 4 pour me sentir satisfait. Alors, je suis en train de regretter cela parce que je voudrais abandonner aussi. Je constate sur mes études d'économie, tout ça. Mais je n'arrive pas. C'est comme si c'est devenu un besoin naturel et nécessaire. Alors, il y a aussi des fois que je manque des boissons autorisées, des boissons avec une quantité d'alcool qui est dosée. Par exemple, 5% pour 72 centilitres. Il y a aussi des boissons forcément alcoolisées telles que, je trouve dans des bouteilles de sang.
Est-ce que vous vous demandez, j'imagine, Alliance, c'est un peu comment s'en sortir?
Oui, c'est ce que je me demande en tout cas.
Professeur Philippe Jory, dans ce que raconte Alliance, effectivement, il raconte l'entraînement des jeunes entre eux. En fait, la première fois où on goûte de l'alcool, on trouve pas ça bon.
Oui, mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas égaux vis-à-vis de l'alcool, parce que parmi ses collègues, ses copains, il y en a qui n'ont pas de problème, hein, et qui ont pu boire comme ça de façon festive. Ça commence souvent par la façon festive. Et puis, il y a des personnes qui deviennent dépendantes, ou qui trouvent que l'alcool, ça les aide. C'est-à-dire que ça peut avoir d'autres fonctions que le festif. La fonction automédication, à ce moment-là, on se rend compte qu'avec l'alcool, on est moins anxieux. Ou avec l'alcool, on peut aborder l'autre. Avec l'alcool,
moins timide, on a plus de courage.
Voilà. Ou alors, carrément, on se rend plus compte de ce qui se passe. On n'affronte pas la réalité, comme je l'ai déjà dit. Donc ça a beaucoup de fonctions, l'alcool. Mais alors, ce que dit Alliance, c'est intéressant, parce que lui, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il boit le soir. C'est-à-dire qu'il ne boit pas le matin, a priori, d'après ce que j'ai compris. Donc il n'est pas dépendant. Le matin, il n'est pas tout tremblant. Il n'a pas besoin de sa dose d'alcool. Et il y a beaucoup de patients qui pensent qu'ils n'ont pas de problème d'alcool, mais qu'ils ne boivent que le soir, en fait. Ils disent, moi, je suis pas dépendant, parce que je ne bois que le soir. Et en fait, on a beaucoup de patients stressés, quand ils rentrent du boulot, ou qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, c'est encore autre chose, donc ils passent par le café, et puis ils boivent, et puis ils peuvent plus s'arrêter, ils peuvent plus gérer. Et donc, le baclofène est une molécule qui les aide, et qu'on va pas donner le matin et le midi. On va le donner en fin d'après-midi. Donc vous voyez, c'est vraiment un traitement à la carte.
C'est ça, on va s'adapter, peut prescrire de façon très différente, oui, suivant les situations.
En fonction de ce que nous disent les patients.
Merci Alliance pour ce témoignage et bon courage à vous. Je voudrais qu'on parle de l'étude que vous êtes en train de mener, justement, sur cette efficacité du baclofène. Peut-être avant de démarrer l'étude, il y a d'abord eu, et sorti au printemps là, de cette année, une étude allemande qui a montré une bonne efficacité de ce baclofène.
Tout à fait, c'est une étude randomisée, c'est-à-dire que les patients ont été tirés au sort, savoir s'ils avaient le baclofène ou s'ils avaient un placebo.
Un placebo, c'est un médicament dans lequel il n'y a rien.
C'est tout à fait, c'est un morceau de sucre éventuellement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi en double aveugle, c'est-à-dire que le médecin ne sait pas ce qu'il donne et le patient ne sait pas ce qu'il prend. Donc voilà, c'est vraiment les études, on ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle pour montrer l'efficacité d'un traitement. Et cette étude a montré que donc le baclofène était plus efficace que le placebo.
De façon considérable, hein, 68%.
Oui, à 6 mois, donc il faudrait voir à 1 an. C'est vrai qu'il y a des différences à 1 an. Actuellement, les autorités demandent des études à 1 an. Ce qui est très difficile avec les patients qui ont des problèmes d'alcool, parce que la compliance est quand même difficile. Donc c'est une étude intéressante qui confirme qu'il y a un intérêt important à cette molécule.
Alors comment vous menez-vous votre étude Bakloville? Est-ce que c'est un peu le même principe que cette étude allemande?
Alors c'est tout à fait le même principe, sauf que c'est une étude... Alors c'est... Je vais quand même dire que c'est quelque chose de très long, de très lourd, puisque j'ai écrit le premier protocole je crois que c'était en juin 2011, puis j'ai créé une équipe pour pouvoir travailler dessus, et puis on l'a déposé, on a eu l'accord du gouvernement en juin 2012, on a inclus le premier patient en juin 2013, le dernier patient, il est sorti en 2014. Vous voyez, ça fait vraiment... Et puis, on a un résultat fin 2015. Donc, ça met 4 ans.
Ça paraît très long, justement, très long. Entre la fin de l'étude, c'est-à-dire qu'elle elle est terminée, et le moment de la sortie. Pourquoi c'est si long? C'est normal ou pas?
C'est tout à fait normal. Les études de cette ampleur, en général, ont les résultats un an et demi après la sortie du dernier patient. Donc on y est presque, on y sera à la fin de l'année.
Donc on aura les résultats à la fin de l'année.
On a 700 000 données dans la base, on a chaque patient a 2200 variables et il y a des erreurs, et donc avant de fixer la base, on est obligé de rappeler les investigateurs, on est obligé de rappeler les patients pour avoir des compléments d'information pour les données manquantes. Donc c'est beaucoup de travail. C'est une étude multicentrique, c'est-à-dire toute la France.
C'est ça, donc avec des patients un peu partout.
Oui, c'est une étude avec des médecins généralistes, c'est-à-dire c'est pas hospitalier, c'est une grande différence, et c'est une étude pragmatique, c'est-à-dire qu'on prend tous les patients, même s'ils sont sous méthadone, même s'ils sont bipolaires, même s'ils sont déprimés, il n'y a pas de sélection. Non, et ça c'est encore plus difficile.
Vous avez parlé de compliance, que c'était particulièrement compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait certains sortent de l'étude, c'est ça?
Alors le comité d'éthique nous a imposé qu'on ne pouvait pas laisser un an des patients sous placebo s'ils vont très mal. Alors que peut-être ils ont une chance avec le baclofène. Donc il était permis dans l'étude, quand ils arrivaient au maximum de la dose permise par l'agence de santé, c'est-à-dire 30 comprimés, c'est-à-dire 300 mg, et qu'ils ne sentaient rien, qu'ils buvaient toujours autant, on leur a permis de sortir de l'étude et de se mettre sous baclofène, comme on dit, en ouvert. C'est-à-dire de façon, ils savaient qu'ils prenaient du baclofène. Donc ça modifie un petit peu la fin de l'étude.
Et alors, mais justement, j'imagine que vous cherchez à savoir ce qui s'est passé ceux qui sont sortis, qui donc sont sous baclofène. Est-ce que du coup, après, ils vont mieux? Parce que j'imagine que c'est aussi un élément...
Ah ben ça, vous aurez les résultats tous ensemble. On donnera tous les résultats ensemble.
Oui.
De ceux qui sont sortis, de ceux qui sont restés, de ceux qui sont... on a récupéré vraiment beaucoup de données. Je veux dire, c'est un gros travail.
Alors, on parle de ça. Il y a deux études françaises en ce moment. Il y a celle-là, Bacloville, et il y en a une autre, Alpadir.
Oui, qui a été menée par Michel Reynaud, avec le soutien d'un laboratoire, d'industrie pharmaceutique, qui était une étude hospitalière, qui était une étude avec beaucoup de non-inclusion.
Donc ça veut dire de patients qui sont suivis à l'hôpital, contrairement à vous, où ils sont suivis par des médecins en ville.
Oui. Voilà. Et en plus, c'est une étude où il y a beaucoup de non-inclusion, parce que quelqu'un, par exemple, qui fume du shit, il ne peut pas être inclus. Dans mon étude, il peut être inclus. Quelqu'un qui prend des médicaments antidépresseurs, il peut pas être inclus dans l'autre étude. Dans la mienne, on prend tout le monde. Donc, c'est deux études complémentaires. Donc, l'étude Alpadir était sur 6 mois, donc il y a eu une prolongation. L'étude Alpadir ne montait que jusqu'à 180 mg. Donc, la mienne montait jusqu'à 300 mg. Donc, il y a des grosses différences, mais elles sont complémentaires.
D'où l'intérêt qu'il y ait ces deux études.
Complètement.
Et on devrait avoir les résultats à peu près de ces deux études. On a Aimé qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Aimé, bonjour.
Bonjour Pierre.
On vous écoute, Aimé.
Bonjour docteur aussi, bonjour RFI.
Bonjour.
En fait, je vous appelle parce que je voulais un peu savoir à quel moment on peut dire qu'on est dépendant d'alcool et quelle est la quantité pour dire qu'on est dépendant d'alcool. Ça, c'est ma première question.
Et la deuxième?
Je vous passe là parce que... la question là fait suite à un constat que j'ai fait donc en suivant l'émission, et je prends au moins tous les jours 3 à 4 bouteilles de bière et 33 centilitres.
Et vous vous demandez, c'est ça, vous vous demandez si c'est un problème ou pas, professeur Jory. C'est intéressant que vous posiez cette question, en tout cas.
Oui, je pense que déjà, quand on pose la question, c'est que peut-être il y a un problème. Ça, c'est déjà la première réponse, parce que, bon, c'est déjà bien de la poser. Alors après, la quantité, c'est probablement, s'il est entre 3 et 5 bouteilles de bière, enfin, s'il a dit 3 bouteilles de 33 centilitres, il est au-dessus de la norme, disons, médicalement correcte. Donc, il a un problème avec l'alcool. Après, il peut toujours... essayer de voir s'il peut arrêter une semaine sans boire. Et on verra bien s'il est dépendant physiquement. Après, il y a dépendance psychologique qui est plus complexe. Mais
voit la dépendance physique?
Dépendance physique, on peut pas arrêter. On tremble, on est mal. Et puis, si vous voulez, quand on a une dépendance, finalement, l'alcool, c'est quelqu'un avec qui on vit. C'est intrus dans sa tête. On ne pense qu'à ça. Ça parasite dès le matin. Et c'est quelque chose qu'on peut pas se débarrasser. Et quand on prends le baclofène, ce que ça a apporté par rapport à d'autres traitements, c'est qu'il y a ce que Mézène a appelé l'indifférence. C'est-à-dire qu'on va passer devant une bouteille, on va boire un verre, et puis il va rien se passer, ça va pas s'allumer dans le cerveau. Il n'y a plus de parasitage, on peut enfin penser PANSER et penser PNSER sa vie. Et ça, ça change vraiment beaucoup de choses.
Et penser à autre chose, justement. Oui. Une dernière intervention avec Barou qui nous appelle de Paris. Bonjour Barou.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour aux auditeurs, bonjour à vous Claire et à votre invité. Mmh. Donc moi, je suis dans le même cas que... Bon, en fait, j'ai été alcoolique pendant un bon bout de temps. J'ai arrêté tout seul sans l'aide d'aucun médecin pendant 6 ans. Mmh. Et là, maintenant, j'ai repris encore. Ça fait plus de 4 ans que je bois. Et là, actuellement, c'est pas ma tête qui me guide, mais c'est le corps. C'est-à-dire que moi, comme l'auditeur précédent, je prends des petites bouteilles de 33 centilitres jusqu'à 4, 3 par jour. Et maintenant, au bout de 3, j'ai des diarrhées incessantes qui me disent d'arrêter.
Et Barou, qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il y a eu un événement dans votre vie qui a fait que vous avez repris?
Oui, j'ai été au chômage. Ah.
Professeur Philippe Jury, je voulais vous faire réagir à ça. Un événement, justement, difficile dans la vie, il y a un risque de replonger.
Ce qu'on appelle, nous, les EVS, les événements de vie stressants, qui peuvent être positifs comme négatifs. C'est-à-dire un mariage, un deuil, un chômage, une mise à la retraite. Mais ça peut être aussi un événement heureux, parce que je parle de mariage. Donc, tout événement de vie stressant peut être une cause de réalcoolisation.
Et alors, on fait comment?
Eh ben, on fait comment? On peut éventuellement préparer ça. C'est-à-dire qu'on peut en discuter avec les patients. Quand on fait de l'entretien motivationnel, qui est une technique de psychothérapie pour ce type de problème, on travaille sur les risques de réalcoolisation. Et pour y travailler, on sait que ça peut exister, et on va travailler avec le patient comment éviter, comment le programmer, comment, vous voyez, donc on va se préparer.
On arrive à la fin de cette émission. Professeur Philippe Jury, un mot de conclusion. Il y a aussi d'autres traitements qui arrivent sur le marché. On a l'impression qu'on avance quand même aujourd'hui dans la prise en charge des personnes dépendantes. Il y a des temps, oui, puisqu'il n'y avait pas grand-chose.
Et vous savez, comme disait le professeur Lagru, pour le tabac, mais je pense que pour l'alcool, on produit pareil, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés. Et je trouve qu'il faut être optimiste. Parce qu'autrement, si on baisse les bras, on a repéré que les médecins, au bout de la deuxième, enfin, troisième réalcoolisation, ils disent, bon, de toute façon, on ne peut rien y faire. Et je pense qu'il faut continuer au contraire.
Il faut accepter les rechutes et continuer à...
Ça fait partie du parcours, il faut les accepter, il faut travailler dessus, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut les éviter, et donc c'est quelque chose de très important.
Et l'industrie pharmaceutique commence à s'intéresser justement à cette pathologie, à chercher de nouveaux traitements?
Oui, d'ailleurs l'industrie pharmaceutique a racheté l'étude Bakloville, et heureusement, puisque ça permet après de demander une autorisation de mise sur le marché. Parce que si l'étude reste uniquement, si cette étude reste uniquement à la propriété de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il n'y aura pas de mise sur le marché. Et donc ça me semble important que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse.
Et c'est ce qui se passe.
Oui.
Donc un mot de conclusion plutôt optimiste.
Il faut toujours être optimiste. Je crois que c'est important, c'est des maladies chroniques, c'est difficile. Et il faut être optimiste parce qu'on y arrive.
Et vous reviendrez au moment de la sortie de l'étude Bakloville, nous parler des résultats.